Voilà, donc là, on commence on va dire ce qu'on a coutume d'appeler le second récit de la création dans l'exégèse moderne, qui a souvent posé problème, puisque après nous avoir raconté les 6 jours, on a l'impression qu'on va finalement revenir en quelque sorte sur le récit, comme si on faisait un deuxième récit. Sauf qu'en réalité, comme on va le voir, ça va être une sorte de zoom essentiellement sur le 6e jour. Et ça va être toute la séquence, puisqu'en fait, après, il n'y a pas de saut de paragraphe, parce qu'il me semble, j'étais en train de vérifier ça tout à l'heure, mais il n'y a pas de saut de paragraphe jusqu'à la fin de ce récit, c'est-à-dire jusqu'à, on va faire la création de l'homme et l'histoire du serpent et tout ça. Et on va aller comme ça très loin, puisque cette section-là, cette paracha-là, va nous emmener jusqu'à la sentence prononcée contre le serpent. Okay? Donc ça va loin. D'accord? Ça fait voilà, jusqu'au milieu du 3e chapitre. Okay? Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, lisons le texte et vous allez voir que déjà le premier verset qui va pas mal nous occuper, justement, est problématique et Rachid va bien mettre en valeur cette problématique, puisqu'il dit et les toldot hashamayim va'aretz behi baram beyom asot Adonai Elohim eretz veshamayim. Voici les engendrements, les enfantements, on va dire littéralement, du ciel et de la terre dans l'heure étant créé, on va dire, au jour du faire par Hachem et Elohim, la terre et les cieux. Et Rashi met tout de suite le doigt sur le problème, qui est, ça veut dire quoi, ce Elé Toldot? Voici les engendrements. Il dit comme ça. Ha'amurim les ma'ala, qui ont été dits plus haut. Ce qui veut dire, de manière très subtile, en deux mots, que voici les engendrements, il ne faudrait pas traduire par voici, mais il faudrait traduire par voilà. C'est-à-dire que ce verset-là n'est pas un verset qui introduit ce qui va venir, mais un verset qui récapitule ce qui vient d'être dit. Quand bien même on a eu un saut de paragraphe juste avant. Et donc il faut tenir ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est passé à un deuxième sujet. Et en même temps, on dit ce verset-là, ce verset 4, est une récapitulation de ce qui vient d'être dit avant. Donc ça situe bien les choses dans la perspective que ce qui va être dit maintenant n'est pas un nouveau récit, mais s'inscrit dans le cadre du récit qui vient d'être dit précédemment. Parce que d'ailleurs, ce mot-là, vous allez voir, il va revenir, parce que si on regarde après, si on regarde la séquence qu'on va avoir, la séquence longue qu'on va avoir par la suite. Après, donc toute cette grande séquence qu'on va avoir sur la création de l'homme, la faute, etc., on va avoir un petit paragraphe d'un seul verset sur les douleurs infligées à la femme. Ensuite, le châtiment infligé à l'homme. Ensuite, l'expulsion du Gan Eden. Ensuite, toute l'histoire de Caïn et Hevel et les enfantements de Caïn. ça, c'est une seule section. Okay. Tous les enfants vont créer. Et on arrivera ensuite, au début du chapitre 5, à une nouvelle section qui sera « Ze Sefer Toldot Adam ». Beyom, Bero Elohim Adam, Bidmut Elohim Asa Oto. Vous voyez que, et où on reprendra là-bas, Zahar, on keva Beraham, Vaivale Chotam, etc. D'accord, donc il faut bien voir ça avant de se lancer tête la première dans l'étude verset par verset, que on a quand même ici, au niveau du début du Sefer Bereshit, une structure assez révélatrice. Et donc on a les six jours de la création. On a ensuite quelque chose qui commence par Ele toldot hashamim ve'ares behibaram beyom asot, etc. Et dont Rashi nous dit ça s'inscrit dans ce qui a été dit avant et ça va dérouler toute l'histoire du Gan Eden et de Caïn et des générations de Caïn. Et ensuite on aura une nouvelle section qui commencera par une forme qui est très proche dans la structure, d'accord? Ze sefer toldot Adam, beyom bero Elohim Adam, bidmut Elohim arsa oto, d'accord? Avec toujours ce basculement, avec la ze ou ele, au lieu d'être ele toldot, ça va être ze sefer toldot. Le beyom, au lieu d'être beyom au lieu d'être Behi Baram Beyom Asot, on aura Beyom Bero, etc. Asa Auto. Donc on a cette structure-là qui est intéressante. Et ensuite, on déroulera, donc, au sens Pshat, les générations d'Adam jusqu'à Noar. Ok. Et au sens le plus large, comme le dit la Gemara, que finalement, Ze Sefer Toldot Adam, c'est en quelque sorte la thématique de toute la Torah. Bon, que c'est pas seulement l'histoire de l'humanité au sens des chroniques de l'humanité, d'accord ? C'est pas Divrei Hayamim, c'est Toldot Adam, c'est-à-dire comment est-ce que l'homme s'inscrit dans des engendrements, c'est-à-dire qu'il y a une construction au fil des générations et une transmission. Et donc, vous voyez qu'il va falloir qu'on réfléchisse aussi sur ce terme de toldot pour voir l'articulation et de comprendre en quoi est-ce que finalement tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on aura vu avant, n'est pas toldot Adam, pour en parler, mais toldot Hashamim Ve'aretz. Donc il faut comprendre ce toldot. Et vous allez voir que tout ça est lié. Alors, Rashi rapporte maintenant quelque chose qui est très connu et qu'il va falloir qu'on analyse parce que c'est assez obscur en réalité. Il faut toujours se méfier quand on utilise ces textes-là du bien connu. Parce que comme le dit Hegel, ce qui est bien connu est en général très mal connu. On croit que c'est bien connu parce que ça fait partie d'un discours environnant. Et parce qu'on a toujours entendu ça, alors on croit qu'on est dispensé de le penser, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut déconstruire l'évidence, avant tout, de ces discours-là qu'on a appris à l'école juive ou qu'on a appris très rapidement quand on commençait le Limoud. Et qu'on se dit, bon, ça, je l'ai vu il y a 20 ans, donc c'est pas la peine que j'y revienne. D'accord ? Parce que alors, la première explication, c'est quelque chose qu'on a déjà analysé. L'imedecha shekulam nivreu berishon. Le fait que le texte dise que beyom asot Hashem, d'accord, le jour où Dieu a fait, ça nous enseigne que en réalité l'essentiel de la création a été fait en un seul jour, donc le premier jour. Et que donc les six autres jours de la création n'ont fait que dérouler dans les détails ce qui a été fait. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au début de ce shiur-là sur la chita du Ramban déjà. Okay, donc je ne reviens pas dessus. Ce sur quoi je veux revenir, c'est ce qu'il nous dit après. Behi bar'am, behi bera'am. Alors, analysons, parce que c'est important, avant tout grammaticalement, cette forme de behi bar'am. Avant de voir la drasha, behi bar'am, c'est une forme qui, c'est difficile à définir, c'est pas une forme classique, ça ressemble à un hitpa'el, c'est-à-dire à un réflexif, mais en réalité c'est pas un hitpa'el, parce que sinon on aurait behitbare'a, mais ça voudrait dire que le ciel et la terre se sont auto-créés, ce qui est pas, évidemment pas ce qu'on veut dire, mais en réalité, le dagesh dans le noun vient nous renseigner sur le fait que le dagesh dans le bet justement vient nous renseigner sur le fait qu'il y a un noun qui est caché dans ce mot-là. D'accord. Noun qui est le signe du passif. D'accord.
C'est ce qu'on appelle un itpael comme manishtana.
Non, parce qu'il n'y a pas le tav. D'accord.
C'est un ifal, non?
C'est une sorte de passif du hif'il. D'accord. Alors peut-être que je dis n'importe quoi en grammaire, je suis pas le plus fort du monde sur les formes rares. Mais en tout cas, c'est comme si on avait benivra'am. D'accord. Sauf qu'on insiste aussi sur le côté actif de l'agent, c'est dans leur processus d'être créé, d'accord. Et donc, on nous dit, et vous voyez que le texte il est écrit dans le Sefer Torah avec un he qui est surscrit, d'accord. Il est plus petit et il va pas jusqu'en bas. Il est accroché à la ligne du haut. Pourquoi ? Alors parce que d'une part, ça c'est toujours très difficile d'interpréter ces choses-là. D'une part parce que il est possible qu'en réalité la forme Beraham fonctionnerait aussi grammaticalement dans leur création, d'accord ? Et donc le he ici peut avoir été c'est parfois comme ça, hein, c'est-à-dire souvent les lettres suspendues comme ça, c'est pour suggérer que la lecture sans la lettre est possible. Bon. Il y a un cas qui est très particulier sur lequel je suis en train de d'écrire en ce moment, qui est dans, je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous connaissez pas ça, c'est quand même la grosse révélation. C'est dans le livre des juges. Je retrouve le verset. Je crois que c'est en 18, un truc comme ça. Ouais, c'est vers la fin, je crois que c'est 18-21. Non, c'est un peu plus loin. Ouais, non, c'est 18-30, d'accord ? En juge 18-30, c'est l'histoire de Psalmicha. Vous connaissez l'histoire de Psalmicha ? Alors, Psalmicha, c'est une sale histoire. C'est une histoire de fou. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelait Micha, qui avait volé de l'argent à sa mère. Et qui, au début de l'histoire, dit à sa mère, « Ah, tu sais quoi, l'argent que je t'avais volé, alors que tu avais perdu, c'est moi qui te l'ai volé. Tiens, je te le rends. » Et sa mère lui dit, « Vraiment, tu es le meilleur des fils de me rendre cet argent, parce qu'en plus, cet argent-là, je voulais l'utiliser pour t'acheter, pour te faire construire une idole. » Alors, elle donne l'argent à un gars qui fabrique une idole et un éphod, et le Micha en question se construit un temple idolâtre. Okay. En Israël.
On parle de juifs, du coup.
On parle de juifs. Okay. Oh, on parle de juifs. Le type, il habite dans... Où est-ce qu'il est ? Attends, c'est où le début ? C'est un peu avant, quand vous êtes. Comment ça va ? Donc, le type, il habite à Bethléem. Ok. Il habite à Bethléem. Et donc, il va s'installer. Non, pardon, c'est avant. Lui, il n'est pas à Bethléem. Lui, il est du côté de, dans les collines d'Éphraïm. Okay. Et donc, il y a l'histoire avec sa mère qui lui fait fabriquer une idole et un éphod. Et le type, il se construit un petit temple avec des teraphim, tout ça. Et il nomme un de ses fils Cohen. Et puis, un jour, il y a un Lévi qui vient de Bethléem, qui débarque là-bas. Et le Micha en question lui dit « Ah, écoute t'es Lévi, ça tombe bien, je cherche un Cohen. Ça te dirait de devenir Cohen, je te nourris et je te loge et je te donne un salaire. » Le type dit ok. Alors après, il y a toute une histoire qu'il y a une guerre avec la tribu de Dan, nanana, et que finalement, la tribu de Dan capture ce Lévi qui sert de Cohen. Le prennent avec lui et l'installent chez eux. Ok ? À Kiryat Yeréim, machin, etc. Non, pardon. Et après, bon, ils s'installent là-bas, ils le prennent et finalement, ils l'installent chez lui et ils l'installent chez eux dans le territoire de Dan. Ok ? Et on nous dit que ce temple idolâtre, idolâtre peut-être consacré à Hachem, mais avec des idoles, va durer, selon un verset, jusqu'à la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire le verset 31, et selon le verset 30, jusqu'à l'exil des 10 tribus. D'accord ? Et alors, on concilie ça en disant qu'à l'époque de David et Shlomo, ils ont arrêté, mais dès qu'après il y a eu la scission entre les deux royaumes, ça a recommencé. Donc il y a eu un temple idolâtre à Dan depuis l'époque des juges jusqu'à presque la fin de l'époque du premier temple. Or, on nous dit que le Lévi en question, qui servait donc de Cohen à ce temple idolâtre, s'appelle Yonatan ben Gershom ben Menaché. Okay. Donc, sachant que ce Gershom ben Menaché, on n'en a jamais entendu parler, et sachant que la grosse bizarrerie, c'est que Menaché, le nom Menaché, il est écrit avec un Noun qui est suspendu comme ça. Ce qui fait qu'en réalité, c'est comme si on nous invitait à ne pas lire le Noun. Et donc, ça fait que le type s'appelle Yonatan ben Gershom ben Moshe. Or, Gershom, c'est l'un des deux fils de Moshe Rabbeinu. Et donc, en réalité, ce Yonatan-là, qui était un Lévi, qui est devenu Cohen et qui a servi dans un temple idolâtre, lequel a duré jusqu'à la fin de Beit Rishon, était un des petits-fils de Moshe Rabbeinu. Truc de fou. Voilà, ça on vous l'apprendra pas à l'école juive. Et donc, là aussi, il y a cette histoire du « et » qui est suspendu, et donc qui appelle une dracha forcément. Et c'est ça qu'on nous dit. Donc, Rashi reprend ici une dracha qui est dans Menachot, qu'on va voir, mais d'abord on le dit dans Rashi. « Behe » donc « Behe Beraham », ça veut dire, là, il faut lire comme si c'était en deux mots. Il les a créés avec le « hé ». Il a créé le ciel et la terre avec le « hé ». « Chez Nehemar », parce qu'il y a un pasouk dans Yesharia qui dit Beyah Hashem sur Olamim. Alors, très difficile à traduire. On va voir comment c'est traduit rapidement dans les traductions classiques. Yesharia 20, oh là là, c'est terrible maintenant, 26. Alors, attends, c'est où ce truc? Voilà. Bitru Bashem Adead Ki Beya Hashem Sur Olamim. Donc la traduction qui est classique, qui est donnée dans les traductions basiques, c'est Ayez confiance en Hashem à jamais, car en Ya Hashem, vous avez. Là, on est obligé de rajouter ce mot-là pour une traduction de chat. Un roc qui dure à jamais. Okay. Mais la Gemara, elle ne dit pas du tout comme ça. Elle dit, elle comprend que c'est par Ya, par les lettres Yud et He, que Hashem est sourd, et c'est Yotzer, d'accord, et formateur, Olamim, des mondes, c'est-à-dire des deux mondes. C'est avec ces deux lettres du tétragramme qu'il a créé deux mondes. Et ici, le verset vient nous apprendre que lequel des deux mondes entre Olamazé et Olamaba a été créé avec le He, lequel a été créé avec le Yud, c'est ce monde-ci qui a été créé avec le He. Behe, avec le He, il a créé le ciel et la terre. D'accord ? Et ensuite, il enchaîne, mais le Rashi est presque incompréhensible si on n'a que le Rashi ici. Ramaz sheyardu plutôt, aresha'im le mata lirot shahat. D'ailleurs, je pense qu'il y a une faute ici. Et ce He fait allusion au fait que les impies, les méchants, descendront en bas pour voir leur propre destruction. Que hezot chez stuma mikol sedadea uptuha lemata la redet derersham, comme ce he qui est fermé de tous côtés et qui est ouvert vers le bas pour qu'on puisse descendre par là. Ok, c'est incompréhensible. On est bien d'accord. Mais la Gemara est beaucoup plus explicite. La Gemara, je vous la colle ici. En Menachot 29b, conversé. Donc, cette Gemara est aussi très connue parce que c'est le passage dans Maseret Menachot. Alors, il faut comprendre pourquoi on parle de ça ici. Parce que on parle des règles d'écriture du Sefer Torah, d'accord. Dans Menachot, je vous déroule un peu le comprendre pourquoi on parle de ça là-bas, parce que ça peut paraître un peu bizarre, parce que normalement Menachot c'est un traité dans Seder Kadashim qui parle des offrandes de farine. Okay, donc, a priori aucun rapport avec l'écriture du Sefer Torah, etc. Maintenant, il faut comprendre pourquoi on en parle ici. Et j'y viens tout de suite. Pourquoi le lien immédiat ? Ok, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est ça. Parce que dans dans cette Gemara-là, on parle justement dans le déroulement des sacrifices de ce qui est Me'akev, c'est-à-dire ce qui, s'il manque une partie, ça invalide le reste, d'accord, dans le processus sacrificiel. Et donc, plus largement, ce chapitre-là s'intéresse à ces questions-là, à tout ce qui toute partie qui va invalider le tout si c'est manquant. Et donc, on parle notamment du fait que si on a une mezouza où il n'y a qu'un seul des deux paragraphes du schéma qui doit figurer, à ce moment-là, la mezouza n'est pas valide. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir une mezouza en deux parchemins en disant « bon, bah, ça complète ». Ou même si j'ai qu'un seul parchemin avec que le premier paragraphe du schéma, je n'ai pas fait toute la mezouza, mais j'ai fait quand même une partie de la mezouza de mezouza. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et on précise, même s'il manque une seule lettre, alors ça pose un problème. Enfin, ça invalide toute la mezouza. Et pareil, les quatre parchemins des tefillin, et pareil, les quatre tzitzit d'un talit. Il est important ça ne marche pas s'il manque l'un des deux. Et donc, de ce fait-là, la Gemara enchaîne. Sur quand on dit qu'il y a une lettre qui manque, ça veut dire que si une lettre est mal écrite, alors c'est pas la bonne lettre, et donc la bonne lettre est manquante. Et donc on discute ici de la forme de certaines lettres. Voilà comment c'est amené. Et c'est notamment juste avant notre passage qu'il y a ce très célèbre récit de Moshe Rabbeinu qui voit Hachem attacher des couronnes aux lettres et lui dit « mais à quoi ça sert ça ?» Et Hachem lui dit « il y a un Talmid Chacham bien des siècles après toi qui viendra et qui déduira des montagnes de Halachot de ces couronnes-là. » Et il leur dit « alors ben, j'aimerais bien voir ça. » Et il l'emmène au Beit Hamidrash de Rabbi Akiva et il s'assoit au fond et il comprend rien au chiour et il commence à avoir des sueurs froides. Et Hachem, jusqu'à ce que Rabbi Akiva, quand on lui pose la question, mais d'où tu déduis ça? Il dit non, en réalité, c'est Halakha de Moshe Mitsinaï. C'est-à-dire, on a une transmission orale de ça et on retrouve des allusions dans les couronnes, mais ce n'est pas déduit a priori des couronnes. Et ensuite, Moshe Rabbeinu dit, alors pourquoi tu prends lui et pourquoi tu prends moi et pas lui pour donner la Torah s'il est tellement plus fort que moi. Et donc il lui montre parce que lui il aura un autre destin d'être martyr aux mains des Romains, etc. Ok, je reprends pas tout ça. Et ensuite donc on en vient aux questions de forme des lettres. Et notamment, on parle de cette histoire de la forme du hé. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux lettres qui se ressemblent beaucoup, qui sont le hé et le chet. Et en particulier dans les formes anciennes. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on est habitué à faire le chet dans le Sefer Torah, comme on le fait dans le... comme c'est indiqué ici dans la Gemara. C'est-à-dire qu'on fait le toit du chet pointu, comme ça. On nous dit comme ça. Comment dire ça ? Amar Rava, Shiva Otiot, Srihot, Shlosha, Ziyunin, Veluhen, Shat Nasgats.
C'est dans la même page, ça ?
Ouais, c'est 29B, 29 bêtes.
Okay. Ah, 29, j'avais mis 27, ok, merci.
29 bêtes. Il y a 7 lettres qui ont besoin d'avoir 3 petits zaïns dessus, une couronne faite de 3 petits zaïns. En fait, ça, c'est a priori essentiellement dans la mezouza, puisque c'est notre sujet ici. D'accord ? Il faut savoir que jusqu'à un certain point du Moyen-Âge, on avait encore une tradition de non pas de mettre systématiquement trois zaïns sur ces 7 lettres-là et un zaïn sur 5, sur 6 autres lettres qui sont Bedek Haya. Mais dans le Sefer Torah, il y avait des indications précises sur combien il fallait de tagin, de zaïn, comme ça, sur chaque lettre. D'accord. Par exemple, il y a encore un livre qui existe comme ça, même si il y a beaucoup de variantes et aujourd'hui les sofrim ne font plus ça, mais par exemple, qu'on mettait 4 tagin sur le bet de Bereshit. Okay. Mais ici, dans les mezuzot, sur Shatnes Gatz, il faut mettre à chaque fois 3 zaïn. Amar Ravashi hazina lahu le sifle davkane de verav de hatre lahu le gega le gage de het de taloule le kar'e de he.
Excuse-moi juste, c'est à quel niveau de la page? C'est au début ou à la fin?
Alors moi je vois pas le déroulé, mais c'est plutôt vers le début.
D'accord. Ok. Ok.
Et donc Ravashi a dit j'ai vu des sofrim méticuleux qui ont étudié dans les yeshivot qui faisaient un angle comme ça, qui faisaient un toit sur le une pente sur le toit du chet et qui suspendaient le pied du hé. Hatre lahu le gage de chet klomar haihu berumo shel olam. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait une pointe, il faisait une pointe sur le toit du Chet pour indiquer que Dieu est vivant éternellement au sommet du monde. Vetaloule le kar'e de he que de ba'amine Rabbi Yehuda Nessia mi Rabbi Ami. Et pourquoi est-ce qu'il suspendait le pied du he? Ça répond à la question de Rabbi Yehuda Anassi à Rabbi Ami. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce verset de Yesharia qu'on a vu? Amar lekol atole bitruno bakadosh baruchu hare lo marsi plutôt baolamazé ou le olamaba. Il a dit toute personne qui suspend sa confiance en Hachem, il a un refuge, enfin, il a Dieu pour refuge, et dans ce monde-ci, et dans le monde à venir. Amarle anahi kakasha. Il dit non, mon problème, ce n'est pas l'interprétation de olamim, d'accord, ce pluriel de olamim, donc olamazé, olamaba, ce n'est pas ça ma question. Amarle anahi kakasha. Voilà, c'est quoi mon problème. Maïshana dirtif beya velo ktiv ya. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il est écrit beya en ya et pas ya? D'accord? Kededarash Rabbi Yehuda bar Eliai. Et donc là, c'est Ravashi lui répond, voilà la drachat de Rabbi Yehuda bar Eliai. Elushne olamot shebara kadosh baruchu echad behe echad beyud. Voilà. Hachem a créé deux mondes avec deux lettres, le He et le Yud. Je ne sais pas si c'est le Olam Haba avec Yud et le Olam Hazeh avec He ou l'inverse. Keshi Omer, Ele Toldot Hashamim Vaharetz Behi Bareham. Maintenant que j'ai cet autre verset dans Bereshit, Behi Bareham. Al tikre behi bareham et la behe beraham. Il faut lire, il les a créés par le he. Ave omer a olamazé behe ve olamaba beyud. Donc j'apprends de là que le olamazé, c'est ce monde-là a été créé avec la lettre he et le olamaba a été créé avec la lettre yud. Pour l'instant, je ne fais que lire, hein, je ne veux pas dire qu'on comprend ce qu'on lit. Uipnema nivra olamazé behe. Pourquoi? Parce que ce monde-ci est semblable à une antichambre. Ou à Arsadra, c'est les arcades qu'il y a en amont de l'entrée. D'accord? Vous voyez, imaginez une maison romaine avec il y a une colonnade à l'entrée avant d'entrer dans la maison. Donc on n'est même pas encore dans la maison. Chez Kolar Rotse Latset, Yetse. Toute personne qui veut sortir peut sortir. Umaitrama Talia Kere Et alors, pourquoi est-ce qu'on a suspendu le pied? Parce qu'en fait, là, et c'est ça qui manque chez Rachid, parce que, ok, c'est ouvert vers le bas pour qu'on puisse sortir. Et, mais la question, c'est pourquoi est-ce que c'est suspendu? Pourquoi est-ce que la patte gauche du hé n'est pas raccrochée au toit? Donc, il y a aussi un trou là-haut. De hi hadar bitshuva, mais aïlele. Parce que si il fait tshuva, alors on le fait remonter. Et alors, l'objection évidente, qui n'est pas rapportée chez Rashi, ve'le'el behar, mais on n'a qu'à le faire remonter par le trou d'en bas dont il est descendu. Lo mistaya milta. Non, ça ne marcherait pas. Kede Resh Lakish, comme l'a expliqué Resh Lakish. Damar Resh Lakish, ma idertiv, im la letzim hu yalitz ve la anavim yitenhen. Il y a dans Michelet, on dit si il méprise les. Enfin, il se moque des moqueurs, mais il favorise les humbles. Bal et taher, mais ça y a une auto. Quelqu'un qui veut se purifier, on lui donne un coup de main. Bal et tamé pot henlo. Quelqu'un qui veut se rendre impur, on lui laisse la porte ouverte. Uma et ama itle taga, ama la kadosh bokhu, im hozerbo, ani kosher lo kesher. Alors pourquoi est-ce que le hé, il a une couronne, quand même, pas trois comme les autres lettres, mais une couronne. Parce que si il fait tshuva, alors on lui tresse une couronne. Alors je continue, puisque c'est la fin de l'explication. Mais pnema nivra olam haba beyud. Et donc olam haba, pourquoi il est créé avec le yud? Mais pnei tzadikim shebo muatim. Parce que les justes qui ont droit au olam haba sont peu nombreux, donc ils sont représentés par une toute petite lettre. Umipnema kafuf rosho. Pourquoi est-ce que le yud a la tête courbée? Mimnech et sadikim shebo kafuf rachehem ipnema asen she enam domim zelaze. Parce que les justes baissent la tête en voyant les autres justes, parce qu'ils se rendent compte que finalement ils ne sont pas égaux les uns aux autres. Et que donc, même s'ils ont mérité d'être dans Olam Haba, ils ont quand même une certaine mesure de honte, on va dire, parce qu'ils se rendent compte qu'ils auraient pu être encore plus haut. Bon, Drasha longue est effectivement assez connue en partie, on va dire, et assez étrange. Ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas d'analyser toute cette dracha, mais c'est d'analyser ce que ça vient nous dire in a nutshell pour nous ici. D'accord. En quoi est-ce que Rashi nous rapporte ça en termes de pshat? Okay. Parce que finalement, si ça ne m'éclaire pas le pshat, je ne vois pas pourquoi le Rashi le rapporte. Rashi, ça ne m'aide pas à rapporter toutes les drachotes qu'il y a dans la Gemara. Il faut comprendre, ça veut dire quoi le pshat? Et en réalité, ça nous éclaire aussi sur le fondement de la drasha de Chazal ici. On vient nous dire que ce monde-ci, il est créé avec le hé, avec la forme de la lettre hé. Elle est donc le modèle qui préside à la création de ce monde-ci. Et que ce hé, il est mis en regard de deux autres lettres. Il est mis en regard du chet et il est mis en regard du yud. Donc là, on nous dit le hé, il a cette particularité qu'il est ouvert vers le bas. Et que donc, il est un lieu qui peut être le lieu d'une chute. On peut tout perdre dans ce monde. C'est ça que ça veut nous dire. C'est une vision finalement négative apparemment, de dire ce qui caractérise avant tout Roland Mazé, c'est la possibilité de fauter et de chuter et de perdre Roland Mazé, a fortiori Roland Maba.
Quand vous dites fauter, chuter, vous faites référence au moment du drache, où ils disent celui qui sort, il sort, quand il y a le verbe sortir.
C'est ça qu'il veut dire. Quand il dit celui qui veut sortir, il sort, ça veut dire, et c'est la dracha de Resh Lakish qui dit, et ça c'est un principe essentiel, que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que quelqu'un qui veut faire des bêtises, on ne va pas faire des miracles pour l'empêcher de faire des bêtises. La personne est libre de faire des bêtises parce que c'est ça qui caractérise sa responsabilité. Et donc, en réalité, c'est ça que ça veut dire ici profondément. Le « hé », il a l'air négatif parce qu'en réalité, il est la possibilité d'une vraie liberté, d'une liberté responsable, c'est-à-dire la possibilité de tout perdre. Mais, et à la différence du chet, il y a quand même une petite ouverture en haut du hé, qui est que si quelqu'un, même s'il est tombé, on lui donne la possibilité de revenir. Et non seulement il ne va pas revenir par le bas, mais il va revenir par le haut, au plus près de la couronne.
Quand on dit faire des bêtises, mais ça n'implique pas la vie, on est d'accord?
C'est-à-dire?
Parce que, enfin, moi, on m'a toujours dit, par exemple, si la vie était en danger, il fallait mieux même attacher quelqu'un et l'obliger à prendre ses médicaments.
Mais là, ça ne s'appelle pas faire des bêtises. Au contraire, c'est une obligation.
Oui, enfin... Non, mais ce que je veux dire, du coup, on a une liberté, mais jusqu'à un certain point, quoi, de faire des bêtises.
Non, pas jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si... imaginons que quelqu'un fait Shabbat, ok. Quelqu'un a la liberté de faire Shabbat ou pas. S'il ne fait pas Shabbat, il perd Olam Haba, pour le dire rapidement. Pas forcément, ça dépend comment il le fait, etc. Mais bref. Mais si il y a un danger pour la vie, il a l'obligation de transgresser Shabbat. Et s'il ne le fait pas, c'est là qu'il est fautif. Mais il est libre de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'il est libre d'être un chassid choté et de prendre l'excuse de la religion pour aller à l'encontre de la loi religieuse qui impose de sauver la vie malgré les lois de Shabbat.
Mais inversement, si cette personne-là transgresse Shabbat volontairement devant les témoins, elle perd le Olam Hazé, quoi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais donc, c'est ça cette idée qui est très forte. Dans cette forme du hé, et on nous dit c'est ça qui préside à la création de ce monde, qui est que c'est de créer un espace où l'homme soit libre, et donc libre de fauter, et donc libre de chuter. Et donc vous voyez bien comment est-ce que ce verset-là fait le lien entre ce qu'on a vu avant et ce qu'on va voir après. D'accord ? Puisque ce qu'on vient nous dire, c'est que ce monde naturel, on a envie de dire, d'accord, déterministe qu'on nous a décrit dans le premier chapitre, est précisément le lieu où va être possible la faute d'Adam. Et donc, ne va pas croire que le monde a été créé par le chet. D'accord ? Parce que si c'était créé par le chet, il partage une certaine caractéristique avec le hé, que lui aussi, il est ouvert en bas. D'accord ? Mais il n'est pas ouvert en haut. Donc, si le monde avait été créé par le chet, ça voudrait dire qu'il y aurait une possibilité de la faute. Parce que pour le coup, le toit du chet fait signe vers le caractère transcendant de Dieu. D'accord ? Et que donc il y aurait un abîme entre un Dieu vivant éternellement et un monde créé avec un vide vers le bas et avec finalement la mort qui serait en bas, d'accord, avec un monde mortel et déterministe, et que donc, et Het, on entend bien dans le nom de la lettre Het, la faute, d'accord. Donc ça ne veut pas dire que ce sera un monde sans faute. Il pourrait y avoir un monde créé par le Het qui serait un monde qu'on pourrait croire plus parfait, parce que c'est un monde qui fait signe vers la vie éternelle de Dieu, mais qui finalement n'est ouvert que vers le bas et qui donc condamne l'homme à la mort, d'accord, parce qu'il ferait partie du monde naturel. Ici, on a un paradoxe, c'est que le sens de l'ouverture du hé vers le bas, qui est aussi une ouverture vers le péché et vers la mort, est transfiguré par ce petit vide qui est créé en haut, qui est la possibilité de la tchouva. Et cette tchouva, finalement, elle est à la fois l'œuvre de l'homme et l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'elle doit venir de l'homme. C'est-à-dire que ça doit être une initiative de l'homme. Mais en même temps, elle est non naturelle. C'est-à-dire que faire tchouva dans un contexte naturaliste, ça n'a aucun sens. D'accord ? Bon, ce qui est fait est fait. D'accord ? Si on est dans une logique déterministe spinoziste, Spinoza va vous dire qu'il n'y a aucune possibilité de changer le passé. D'accord ? Et donc, la tchouva, c'est juste une tristesse associé à une idée fausse de la possibilité de changer le passé, donc ça ne sert à rien. D'accord. Et on nous dit ici que justement, ce petit espace du hé qui est créé en haut, c'est cette grâce surnaturelle d'Hachem qui fait que la tchouva, elle est efficace. D'accord. Et elle permet donc, on comprend bien, une ouverture vers le yud. Mais le yud, lui, n'est pas un espace de liberté.
Olam Haba. Une question.
Oui.
J'ai raté un élément quand vous dites. Je n'ai pas compris pourquoi vous dites que le Het, il a l'air plus parfait.
Le Het, il a l'air plus parfait parce que, justement, il a ce toit pointu qui fait signe vers la transcendance. Tu vois.
Ah, vous avez dit que le E, il ne l'avait pas normalement, c'est ça ?
Non, le E, il ne l'a pas. Le E, il a un toit plat. Okay.
D'accord, mais maintenant, ça y est, ils lui ont fait un poids. Moi, dans mes lettres.
Voilà, normalement, tu le vois dans la marge de ta Gemara, il y a des dessins, non ?
Ouais, c'est vrai. Mais là, j'étais dans un autre. J'étais dans mon micro de l'autre et je voyais que là, il n'y avait plus de différence dans le toit. Mais...
Ouais, dans les micros de l'autre, tu vois, dans les caractères d'imprimerie, on fait pas le toit pointu au Het.
Oui, mais là, c'est vrai, vous avez raison que le Hé, il n'a pas de toit pointu. Le Het, d'accord. Ok, je comprends.
Ok. Donc le Yud, qui préside à la création du Olam Haba, n'est pas un espace de liberté. D'accord ? Il n'y a pas d'ouverture dans le Yud. C'est-à-dire que le Yud fait signe, évidemment, vers une forme de perfection, puisque c'est un point. D'accord ? C'est un point, donc il est... Donc il est sans qualité, donc il renvoie à cette sorte d'unité, et en même temps sa valeur numérique 10 montre bien que ce n'est pas juste une unité une, mais que c'est une unité qui est fertile de multiplicité, on va dire. Mais ce n'est pas un espace de liberté. Et au contraire, c'est un espace, finalement, de quelque part de honte, parce que c'est le monde de la vérité, et que donc, une fois qu'on est arrivé là-bas, chacun se rend compte de ce qu'il aurait pu réaliser, de ce qu'il n'a pas réalisé. Et il se rend compte aussi, et c'est en lien avec ce qu'on avait avec le Hé, que la tchouva qu'il a pu faire, et qu'il a pu peut-être s'attribuer à lui-même, en réalité n'a été possible que par une grâce divine. Donc, c'est ça qu'on vient nous dire ici. C'est ça que Rashi a dit en étant peut-être un petit peu rapide. Ok, alors on va voir. Et ensuite, il continue ou pas ? Après, il fait autre chose. Donc, on comprend bien ce qui vient nous être dit ici, et c'est ça qui est quand même formidable. Par ce Behi Beraham, on vient nous dire que donc ce monde, en apparence naturellement déterminé, d'accord, et ce qui indique aussi le mot Toldot d'ailleurs, d'accord, parce que Toldot, comme le dit Ibn Ezra, Perush Ele Sheholidou, d'accord, c'est ce que le ciel et la terre engendrent. Donc on est dans un mode, comme on l'a dit déjà à propos de Shabbat, où finalement il y a des choses qui ont été mises en place pendant les six jours de la création, et ensuite ça va continuer à se reproduire. Donc on est dans un mécanisme naturel. Et on vient nous dire ici, par cette petite allusion, que Dieu a ménagé dans ce mécanisme naturel un espace pour la liberté humaine qui comporte deux aspects, la possibilité de fauter et la responsabilité de la faute, et la possibilité de faire tchouva et la grâce dont on bénéficie si on fait tchouva. C'est ce mécanisme très important. Bon. Et c'est pas pour rien que la tchouva est associée en termes kabbalistiques à la sphira bina, qui elle correspond au Olam Haba, et qui dans le tétragramme correspond au premier He. Donc vous voyez bien qu'il y a un lien entre la possibilité de tshuva dans Olam Hazé et le fait finalement que on se rend compte que notre liberté de faire tshuva nécessitait la grâce divine, qui fait que on penche la tête dans Olam Haba. C'est pour le dire rapidement. Alors maintenant, on va prendre Ramban, qui va nous éclairer justement un peu plus sur ces aspects kabbalistiques. Je prends directement on va faire le début. C'est-à-dire, il dit Ele toldat hashamim va'aretz behi bareham. Ok. Yisaper toldot hashamim va'aretz bematar ubitzmicha kasher nivreu v'na'asu kitikunam. Donc, lui ne lit pas le Ele comme rattaché à ce qui vient avant, mais à ce qui vient immédiatement après. C'est-à-dire à comment est-ce que le système de la pluie va être mis en place. D'accord ? Donc, on va nous raconter comment est-ce que le ciel et la terre se reproduisent avec la pluie et avec les plantes qui poussent. Kasher nivraou venarasu ketikunam. Et donc, ça va être des engendrements qui vont s'inscrire dans la continuité de leur création ex nihilo et de leur conformation pendant les six jours. Ki hashamayim yitenu talam ou metaram, donc parce que les cieux vont donner leur rosée et leur pluie. Ve'aretz titen yevula, et la terre va donner ses récoltes. Ve'hem kiyum kol hay, et à partir de là, ça va faire que tout le vivant va pouvoir persister dans l'existence. Veramas be hibaream, mashamru be heberam. Et donc le hibaream avec ce he suspendu fait allusion à ce qu'on a vu dans la Gemara, que le ciel et la terre ont été créés par le he. Umipneze loiski. Alors là, maintenant, il rentre dans sa dracha kabbalistique. Umipneze loiskir adhena rak milat Elohim. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, on n'a pas utilisé le nom divin Yudke Vavke, on a utilisé que le nom, ou le mot même, il dit, Elohim. Ou Meforash Bakatuv. Et ça, c'est explicité. J'aime bien son Meforash, parce qu'il dit c'est explicité dans les versets de Yeshaya et de Iyov, qui dit Ve et kol ele yadi asta, et tout ceci C'est ma main qui l'a fait. Vechena Mariov, Milu Yada Bechol Ele, Ki Yad Hashem Astazot. Qui ne sait pas que tout ceci, de tout ceci, que c'est la main d'Hachem qui a fait cela. Imken tirmos beyom asot Hashem Elokim, le milat bereshit ke Moshe amarnu. Et si c'est le cas, alors si on pose ça, ça veut dire que beyom asot Hashem Elokim, ça renvoie au mot bereshit, comme on l'a dit. Est-ce que quelqu'un a compris un traître mot à ce que racontait Ramban? Ok, alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé l'explication dans un commentaire que je vais aller chercher tout de suite. Je reviens. Donc, on a notre fidèle Torah Or de Rabbi Meir Popper, ce qu'on a déjà évoqué, qui nous dit comme ça. Je vous lis et après on va peut-être pas faire dans le détail, mais vous allez voir que c'est spécial. Donc, Veramas beibaram mashamru beheberam haynu he zehira bechinat malchut de Adam Kadmon sheheitzila kol haolamot umalchut de atzilut beraa bria yetzira asya vezehu beheberam veamalchut nikret tamid bechinat Elokim. והיא נקראת יד השם, כמו שאמר בספר הזוהר, בפסוק, ואין מידי מציל, וביד הנביאים אדמה, כי נזכר בזוהר. נוקידי, סהלה, en termes kabbalistiques, c'est forcément soit le premier, soit le deuxième he du tétragramme. Et il dit, ici c'est le petit he, donc c'est le deuxième he, d'accord, c'est le dernier he du tétragramme qui correspond à l'aspect de Malchut. Donc, soit Malchut de Adam Kadmon qui a fait émaner tous les autres mondes, d'accord, Atzilut essentiellement, soit Malchut de Atzilut qui a créé les trois mondes séparés, Bria, Yetzira, Asya. Donc, c'est ça que ça veut dire « Behe Beram », c'est-à-dire il les a créés par la lettre « He », c'est-à-dire que de la création, l'instauration d'un monde se fait par la Sphira Malchut. Or, Malchut est toujours appelé par ce nom de Elohim. Et elle est aussi appelée « Yad Hashem », la main de Dieu. Et, donc ensuite il rapporte, on ne va pas le faire dans le texte parce que ça me rapporterait trop loin, mais plusieurs passages du Zohar où on voit bien comme ça que Yad Hashem, ça renvoie, enfin ça peut renvoyer à Malchut, parce qu'en réalité ça peut renvoyer aussi à Chesed ou à Goura, voire à Tiferet, mais là il dit ça renvoie à Malchut. Et donc il dit אם כן המלכות הנקראת יד השם היא הצילה הכל והיינו הזהרה כדי אמרת donc ça veut dire que c'est la sphira malchut qu'on appelle la main d'Hashem, c'est elle qui a fait émaner toute la création, et donc c'est le petit he le deuxième he du tétragramme. Imken. Donc c'est pourquoi. Ça renvoie à ce qu'on a dit. Beyom ha'asot Hashem Elokim. D'accord ? Parce que le problème qu'on a, c'est que maintenant, si tu nous dis que finalement toute la création passe par Malchut, c'est-à-dire Elokim, pourquoi est-ce que dans ce verset-là, on nous dit Hashem Elokim ? Donc, le Ramban dit, c'est un remez du mot Bereshit, comme on l'a expliqué. Et donc, ça veut dire quoi ? Que il dit Chochma Tata ou Chochma Rabati, al Yadam Asu Azecharim et Aolamot. La Chen Amru Kan, Hashem Elokim, Pirush, Hashpaat Atiferet al Yadam Alchut, Vei Asta Akol. Parce que, en réalité, Bereshit, on l'a vu, ça renvoyait à la Sphira Chochma, qui est une dimension masculine. Et donc, ça veut dire que, pour le dire rapidement, ce n'est pas Malchut qui crée toute seule, d'accord, mais que c'est la dimension masculine, qui est ici Chochma, hein, qui crée par l'association avec Malchut. Donc, il y a nécessairement un pôle masculin et un pôle féminin. Et donc, c'est pour ça que Bereshit, qui renvoie à Chochma, en réalité, c'est le Bereshit qui est créateur. Et que c'est le Elohim, c'est Malchut qui est l'instrument de la création. C'est ça qu'il veut dire. Okay. On va regarder dans le Sefer Meirat et Naïm de Rabbi Yitzhak Demin Akko, qui est beaucoup plus avant, parce que c'est un talmid direct du Ramban, comment lui exprime les choses.
Du coup, vous dites qu'il y a une association, c'est ça, entre Chochma et Malchut, quoi, c'est ça, entre la figure ouais. masculine de Chochma et le féminin de Malchut, c'est ça?
Voilà.
Donc, mais ma question, c'était
entre Chochma et Bina ah. et entre Tiferet et Malchut, quoi.
Ah d'accord, c'est ça, c'était ça ma question, c'est de dire. Ouais.
Voilà, je croyais que Chochma. C'est pas très clair chez lui. C'est pas très clair.
C'est vrai que là, c'était un peu bizarre de se dire Chochma directement avec Malchut. C'est comme si c'est un peu étrange à entendre.
Alors attends, maintenant, où est-ce que c'est chez lui? Allez, Vav, Bet Gimel. C'est presque plus clair chez lui. Voilà comment il dit. Il dit. Alderech ha'emet, d'accord, donc dans le point de vue kabbalistique. Tiferet va'ateret, donc Shamaim eretz Tiferet et Malchut. Behe beram, ils ont été créés par le He. Donc vous voyez, ça c'est autre chose qu'on retrouve aussi très souvent dans les textes kabbalistiques, c'est qu'il y a une lecture à un double niveau. C'est-à-dire. Shamim Varetz, créé par le He, c'est à la fois une lecture de la création telle qu'elle a été créée, mais c'est aussi quelque chose qui se passe à l'intérieur même de Hatzilut, où finalement, Shamaim renvoie à Tiferet et Erez renvoie à Malchut, et ils ont été créés par le He, Keloma Reshit Aliona, Shei Chochma Keduma Bara Tiferet Veateret, Behe Rishona Shel Shem Sheu Atshuva. Alors là, il faut décoder quand même. Ça veut dire que le Réchit suprême, c'est-à-dire d'accord, le Réchit de Bereshit, qui est Chochma, a créé Tiferet et Malchut par le premier He du tétragramme qui est Tshuva, c'est-à-dire qui est Bina. D'accord ? ומה שאמר הרב, אם כן תרמוס ביום הסוד, השם אלוקים למילת בראשית, כוונתו הנה כי השמיים והארץ הנזכרים הם התחתונים הנבראים שימלאו יד השם, אוקיי? Bon, c'est pas si simple que ça. Mais en gros, ce qu'il vient nous dire ici, c'est ça. Ce que veut dire Ramban, c'est que le hé fait référence à la dimension féminine. Donc, si on lit Shamim Vaharetz comme renvoyant au Sfirot Tiferet et Malchut, alors le hé dont on parle, c'est Bina. Si on parle des mondes séparés, et que donc Shamim Vaharetz, c'est notre ciel et notre terre, alors le hé en question, c'est Malchut. Mais, et c'est ça que veut dire Ramban de manière un peu obscure, ce n'est pas ce hé qui crée tout seul. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on avait dit. C'est-à-dire, c'est bé-hé. C'est avec le hé, par le moyen du hé. D'accord ? Et que donc, c'est la dimension masculine. Donc, si c'est bina, alors à ce moment-là, c'est chokhma, réchit, qui crée avec bina. Si hé, c'est malchut, alors c'est tiferet, qui est le pôle actif, qui crée par malchut. Et donc, c'est pour ça que nous ayons dit Behi Baream, il a créé par le hé, pour qu'on ne croit pas que c'est le hé qui est créateur, on nous précise bien que c'est Hachem Elohim qui est créateur, c'est-à-dire cette double polarité masculine et féminine. Hachem étant le pôle masculin et Elohim étant le pôle féminin. Ok, voilà ce qu'on peut tirer rapidement du Ramban. Alors, je propose qu'on s'arrête là parce qu'après on passe à un autre sujet. Qui est très important aussi. Et on découvrira d'autres choses. Vous êtes là jusqu'à fin juillet, vous ?
Moi, ouais.
Si ça reste sur Zoom.
Ouais, normalement aussi. Normalement aussi, ouais.